Bonjour Olivier.
Bonjour.
Au fil de ton expérience, tu as eu l'occasion d'étudier les rapports qu'il y a entre une entreprise et ses sous-traitants. Le rapport qui existe entre une agence de traduction et ses traducteurs freelance est tout à fait différent du rapport de sous-traitance auquel tu as été habitué dans l'entreprise en règle générale.
Il faut savoir qu'ici, dans ce cas-ci, on est dans un cas particulier. Le commanditaire et le sous-traitant font le même travail. Et donc, dans ce cas particulier, le commanditaire reste l'expert et il ne laisse jamais ce rôle, ou très rarement, au sous-traitant. De plus, le monde de la traduction foisonne d'amateurisme.
Qu'est-ce que tu entends exactement par amateurisme?
La principale différence, enfin, les principales différences entre le professionnel et l'amateur, vont se situer plutôt au niveau des infrastructures. Donc le fait de disposer d'un bureau, d'une pièce dédiée ou d'un endroit qu'on peut conserver au calme, un endroit où il n'y aura pas des enfants qui vont venir courir, jouer, ou la TV qui va faire du bruit et générer des distractions. C'est aussi des outils dédiés, PC dédiés, des logiciels adaptés et dédiés à la traduction, des logiciels de correction, systèmes de sauvegarde. Ce sont des connaissances pointues dans les domaines où la personne offre ses services. C'est aussi au niveau de la gestion du travail, avoir une connaissance et une capacité à pouvoir prévoir son temps de travail sur certains dossiers, pour pouvoir remettre des délais, des tarifs qui correspondent au travail demandé. Et c'est une connaissance simplement du monde des affaires. Il y a énormément de personnes qui ne disposent pas de ces atouts, qui disposent parfois d'un ou deux de ces atouts, mais pas plus. Et les agences, elles, sont habituées et s'attendent généralement à travailler avec des gens qui ne rencontrent pas tous ces prérequis du professionnel. Il faut savoir aussi qu'il y a un phénomène pervers dans l'offre de la traduction, qui est que l'agence dispose des moyens internes de corriger un travail grossier ou incomplet ou de mauvaise qualité qui lui serait remise par un sous-traitant. Donc la prise de risque reste minimum. Et je dirais même qu'elle est pratiquement dans l'intérêt de l'agence. Parce que l'agence, fait ou non les finitions, elle a tout en main, c'est elle qui va décider du niveau qualitatif qu'elle a reçu, c'est elle qui va décider si elle paye son sous-traitant ou pas, ou si elle refuse une partie du paiement, ou enfin, elle peut absolument tout faire. Elle peut également, dans le cadre d'un travail de qualité, passer le travail tel quel à son client, tout en sachant qu'il a été fait à un prix très 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 bas, et ainsi dégager des marges bénéficiaires conséquentes.
C'est vrai que si l'agence considère le travail de mauvaise qualité, elle peut se retourner contre le traducteur.
Le traducteur, dans tous les cas, va subir la loi de l'agence. Donc s'il n'a pas été, aux yeux de l'agence, suffisamment bon, effectivement, s'il n'a pas de statut, s'il n'est pas un professionnel, s'il n'a pas pignon sur rue, il aura très peu de recours. Et du coup, l'agence pourra simplement refuser de le payer. Par contre, s'il est bon, s'il est vraiment bon, il va en faire bénéficier l'agence. Évidemment, si un traducteur sort du lot, généralement, les petits boulots pour les agences ne sont qu'un passage de courte durée et rapidement, la personne va pouvoir évoluer vers de bien meilleures conditions.
Oui, le sujet de la qualité en matière de traduction, c'est quelque chose de très subjectif. On aura l'occasion d'en reparler une autre fois.
Oui, on a un sujet à développer à ce niveau, au niveau de la qualité.
Alors revenons-en aux entrepreneurs. Tu as identifié trois attitudes vraiment primordiales: être capable d'investissement, de gestion et surtout, tu nous as parlé d'un état d'esprit.
Oui, l'entrepreneur doit investir énormément, que ce soit au niveau financier, pour les outils, on a parlé d'une pièce dédiée, on a parlé d'un ordinateur dédié, on a parlé de logiciels qui souvent sont assez onéreux. C'est aussi un investissement personnel. Il faut souvent laisser de côté tout un tas de choses pour pouvoir se consacrer à son entreprise, et un investissement en temps, parce que il y a pour un entrepreneur beaucoup de temps de travail qui sont non rémunérés. L'immobilisme ne fait pas partie de l'entrepreneuriat et il est primordial d'investir aussi dans tout ce qui est formation, évolution et suivi de l'état d'avancement de son propre métier.
Alors, la deuxième attitude que tu as identifiée, c'est la gestion.
Oui, la gestion des ressources, les ressources informatiques, est-ce que je peux traiter tel ou tel document avec ce dont je dispose? La gestion du temps, mon planning, est-ce que je vais pouvoir intercaler ce dossier, ce travail parmi ceux que j'ai déjà? Est-ce que je vais pouvoir malgré tout rendre tous les dossiers que j'ai en cours en temps et en heure? Ça fait partie de la capacité de gestion. Gestion aussi des collègues et des ressources humaines dont on peut disposer pour pouvoir déléguer une partie du travail si on ne peut pas la faire ou si on ne sait pas la faire pour diverses raisons. C'est savoir aussi de quoi on dispose, avoir une vision claire de ses propres compétences, de ses propres capacités de travail et de sa propre force financière si des investissements sont nécessaires. Il faut pouvoir à un moment pratiquer une comptabilité analytique pour savoir exactement ce que coûte un projet et quelles sont les ressources qui lui ont été attribuées de manière à pouvoir avoir une vision globale, claire, des coûts.
Oui, tu trouves important aussi d'effectuer une analyse a posteriori de chaque dossier. C'est important de pouvoir jeter un regard sur ce qu'on a fait pour vraiment l'étudier clairement.
Oui, parce que c'est la seule analyse qui va être totalement objective et qui va rendre un chiffre réel concernant le temps et le montant que l'on gagne en tant qu'entrepreneur.
Ok. En ce qui concerne l'état d'esprit de l'entrepreneur, qu'est-ce que c'est qu'un état d'esprit entrepreneur?
L'entrepreneur se doit avant tout d'analyser les besoins de son client. Il doit être à l'écoute, il doit pouvoir comprendre son client et lui proposer des solutions qui correspondent à ses besoins et non pas aux envies de l'entrepreneur. Il faut parfois savoir laisser un peu de côté ses propres méthodes de travail pour s'adapter à l'entreprise pour laquelle on travaille. Il y a également la courtoisie. Ça a l'air comme ça un petit peu surfait, mais c'est très important. On n'est pas là pour expliquer au client la manière dont il doit travailler, ce qu'il doit faire, ce qu'il ne doit pas faire. On n'est pas là pour mettre le doigt sur l'erreur qui a été faite et qu'on va devoir corriger. On est simplement là pour lui rendre service et corriger l'erreur. On a besoin pour ça d'une certaine flexibilité et de toujours garder à l'esprit qu'au final, un client content est un client qui a eu ce dont il avait besoin.
Alors pour finir, je dirais quand même que l'entrepreneur, il est aussi là pour gagner sa vie. C'est quelque chose qui n'est pas forcément bien vu, qui n'est pas forcément valorisé, mais l'entrepreneur doit gagner sa vie, il doit être capable de faire la distinction entre le montant qu'il perçoit de ses clients, le montant de ses factures et son salaire. Il doit être capable de prévoir ses charges fiscales, par exemple. Une bonne organisation dans sa facturation, son rappel pour les clients en retard, c'est quelque chose de très important aussi. Ce n'est pas forcément évident non plus de réclamer son dû à un client. Un entrepreneur démarche, il prospecte, il doit savoir se vendre. Tous ces aspects sont vraiment importants. Trop d'entrepreneurs font faillite parce qu'ils ne sont pas suffisamment organisés ou ils ne sont pas capables d'aller vers le client ou de le garder. C'est encore un sujet qui est vraiment essentiel et qu'on devrait aborder.
Alors oui, l'entrepreneur évidemment doit gagner sa vie, bien entendu, il doit veiller à la pérennité financière de son entreprise, d'autant s'il a charge d'employés, d'ouvriers ou autres, c'est très très important. Mais évidemment, il y a le respect de la déontologie et la manière de gagner sa vie. Il y a faire un métier dans le simple but de s'enrichir, comme les agences à bas prix et comme certains le pratiquent. Et il y a faire un travail dans de bonnes conditions et qui, parce qu'il est fait dans de bonnes conditions, permet de s'enrichir. Ça, c'est une vision évidemment à plus long terme, avec une bien plus grande valorisation du travail et des individus.
Merci beaucoup, Olivier. Au revoir.
Au revoir.